sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin, à la prise de son Nadège Antonini, Bouclifa et Cédric Châtelus. À la réalisation, Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, Lily Bloom, Corinne Rondeau et Antoine Guillot pour parler ensemble de Sunset de Laszlo Nemes, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan et M. de Yolande Zoberman. Coup de cœur, Antoine Guillot, ce soir pour Signe particulier et Travail au noir, deux films de Jerzy Skolimowski en salle depuis mercredi dernier, pour la première fois pour l'un, ressorti pour l'autre. En fin d'émission, nous ferons gagner des cadeaux grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Elena Rubinstein, L'aventure de la beauté. C'est une exposition à voir jusqu'au 25 août au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec Sunset de Laszlo Nemes, auteur d'un premier film présenté à Cannes, Le fils de Saul, encensé par les uns, dont j'étais, honni par les autres. On y suivait, dans Le fils de Saul, un prisonnier juif, membre des Sonderkommando dans Auschwitz, caméra au plus près de lui, courte focale, rendant les premiers plans nets, les arrière-plans toujours flous, évitant notamment de trop en montrer. Le cinéaste hongrois revient avec un autre film historique situé à Budapest dans les années 1910. Cette fois, c'est une jeune femme que la caméra va suivre de très près pendant 2h20, le temps pour elle d'essayer de trouver la vérité dans un monde plein de mensonges.
Ilka Samihez. Kisasszony, az állás miatt jöttem.
Miért jött ide?
Ez a szüleim üzlete.
Az volt.
Nem ez az egyetlen kalapszalon a városban?
Az egyetlen, ami a nevemet viseli.
Maga egy lejter.
Nem fog elhinni.
Kicsoda?
Tudom, lejter fiam.
Azt hiszem, van egy testvérem.
Senki sem tudja, hol lehet most. Menjenem innen. Ezen a héten itt vér fog folyni.
Sunset de Laszlo Nemes, et d'abord, quelques mots, mais vraiment quelques mots, des trois critiques présents. Antoine Guillot, pour commencer.
Quelques mots pour le qualifier, je dirais que c'est un grand film réactionnaire.
Lily Bloom.
Moi, je dirais que c'est une splendide coquille vide.
Corinne Rondeau.
Totalement décevant.
Bon, et maintenant on va développer. Je devrais en dire quelques-uns, moi, aussi. Après Le fils de Saul, La fille de Leiter. Antoine Guillot.
Non, quand je dis grand film réactionnaire, c'est que c'est un film qui se fait en réaction très manifestement face à une façon de faire le cinéma aujourd'hui. D'abord le fait qu'il soit tourné en pellicule et que Laszlo Nemes exige quasiment que son film soit projeté dans sa copie 35mm, ce qui est à peu près impossible partout puisque les projecteurs ont disparu. Donc il y a une copie à Paris et pour toute la France d'ailleurs qui est en 35mm, mais pour lui c'est la version autorisée. Si vous la voyez autrement, c'est une version dégradée. Ça se fait aussi contre une certaine manière de faire le cinéma, de peut-être là depuis beaucoup plus longtemps, qui est celle aussi du roman omniscient, c'est-à-dire le film qui vous explique et où on voit tout et où, par exemple, l'arrière-plan est net. Alors, les gens qui découvriront ce film se diront peut-être « Ah oui, d'accord, il nous refait le coup du fils de Saul, ça lui avait réussi la première fois, donc il le refait ». En fait, c'est un procédé, si on veut l'appeler tel quel, qu'il utilise...
Un parti pris, on va dire.
Voilà, un parti pris esthétique qui est presque un parti pris éthique chez lui, hein, qui, en tout cas qu'il utilise depuis très longtemps, puisque c'était déjà le cas dans ses courts-métrages précédents. C'est-à-dire qu'il est dans l'idée que nous n'avons qu'un aperçu du monde qui est limité par nos facultés sensorielles, ne serait-ce que par le fait qu'on ait, on puisse pas voir net et flou, enfin on puisse pas voir tout net, que ce soit l'arrière-plan et le premier plan. Donc lui, il choisit de coller à la vision d'un personnage, donc cette fois-ci c'est une femme, qui en plus a des yeux manifestement de myope. Elle a ce très beau regard que peuvent avoir les myopes, ces yeux un peu globuleux comme ça, très intenses, très fougueux, et c'est évidemment une aventure du regard que ça raconte. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Iris, s'il y avait besoin de souligner la chose. Et on va être vraiment,
du coup elle l'est quand même,
et voilà, et on va être vraiment dans son regard. Ce qui moi me passionne dans ce film, après, et j'entends toutes les remarques qu'il peut y avoir sur le côté cinéma embarqué, vision de myope, procédé, etc., moi c'est l'ampleur romanesque du film. C'est-à-dire que ça commence par ces mots « levons le voile » et elle va n'avoir de cesse que de lever le voile, puisqu'elle va mener une enquête pour essayer de connaître la réalité de ce qu'il y a. En réalité, il n'y a pas, puisque la beauté et la force de ce film, c'est que plus on avance, plus derrière chaque voile relevé, il y a un autre voile. Plus on avance, plus le mystère s'épaissit et plus le spectateur, par moment, devient complètement perdu par ce qu'il voit et se met à remettre en cause la nature même des images qu'on lui propose. Et là, le film devient absolument passionnant.
Lydie Blum, pour ce premier tour, là encore.
Eh bien, moi, en fait, ce film-là, en fait, c'est terrible, en fait, parce que la méthodologie très lourde, effectivement, qu'il a appliquée pratiquement à l'identique de son premier film, Le Fils de Saul, m'a fait détester cette méthodologie, parce que d'un seul coup, elle s'est, pour moi, vidée de sens, et m'a même fait douter sur mes impressions sur le Fils de Saul. Alors, il faut quand même dire que c'est, en termes d'immersion, un film époustouflant, mais qui reste toujours mécanique dans sa vision, qu'on est toujours au plus proche dans sa nuque, dans un brouhaha babélien. On se perd avec elle, et on se dit, ah, mon Dieu, où va-t-il aller ? Effectivement, c'est intéressant de filmer les prémices de la décadence, de la grande chute qui vont après arriver avec la Première Guerre mondiale, de filmer voilà ce point de sophistication de société qui est manifesté par la chapellerie et qui va d'un seul coup voilà par une sorte de pulsion de mort intrinsèque à l'humain se décomposer sous les yeux. C'est très intéressant, mais en fait cette volonté de préserver cette opacité au final devient hostile, parce que les bribes d'éléments qu'elle assemble finalement nous perdent encore plus, ne paraissent pas très intéressants, et au final voilà, moi je me suis retirée émotionnellement du film au point de partir un peu de l'autre côté, et qu'est-ce qu'il en reste en fait de cela, voilà.
Corinne Rondeau, Sunset.
Pas grand-chose.
Non, moi j'avais été avec vous, Arnaud, très, très bouleversée par Le Fils de Saul, parce qu'il avait, pour moi, trouvé l'optique qui permettait cinématographiquement de sortir de la représentation de la Shoah. Et ça, c'était un grand bouleversement, parce que c'était aussi cinématographique. Ici, effectivement, la reconduite, alors merci Antoine pour nous dire que c'est un principe de vision appliquée à l'optique cinématographique qu'il utilise. Cependant, je crois que quand même un réalisateur, c'est quand même quelqu'un qui est du côté de la création, on a envie de lui dire, ben, un peu lâche l'affaire. Oui, le cinéma, c'est peut-être adapter la vision avec une optique, mais c'est aussi raconter des histoires. Alors, il a trouvé quand même la bonne vision pour faire son deuxième film. Il fait la sortie de 39-45 avec les camps. Comment sortir d'un camp et comment sortir d'un cadre quand, en fait, ce qu'on voit des camps, c'est l'innommable, c'est des choses qui sont difficiles à montrer. Là, il rejoue le même dispositif, mais avec quelque chose qui doit être ouvert, à mon sens. Mais il rejoue, en fait, une parenthèse historique. Alors, d'un côté, il y a comment le cinéma prend en charge cette manière de sortir de l'histoire par le cinéma, ce qui est absolument admirable. Et puis, l'autre parenthèse, c'est 14-18, puisque le film s'arrête il s'arrête en 14, enfin, dans le courant de 14, on va dire, 14-18. Et donc, il se met juste en amont pour aussi faire de l'histoire. Le problème, c'est que l'histoire, on la connaît tout de même, et que sa manière de raconter quelque chose un peu la ruban blanc de Haneke, c'est-à-dire on va proposer une interprétation de l'histoire pour aboutir aux tranchées. Hein. Et je suis un petit peu agacée, vraiment agacée, que d'abord par la répétition du dispositif, mais mes camarades l'ont répété, mais je suis aussi agacée par cette espèce de dissolution absolue du récit historique. D'autant que là, c'est une vision qui est quand même... je ne sais pas, même pas la qualifier. Moi, je l'ai trouvée exaspérante parce qu'elle est pleine de redites. Ça ne cesse de se répéter au cours du film. J'ai trouvé qu'il y avait des appels à la fois là, une certaine téléologie chez Haneke, mais aussi des échos à Bellatar dans les Harmonie Werkmeister, qui est le film d'une sorte de révolution. Et donc, on voit des passages de gens avec des flambeaux et quelque chose qui se réveille avec un cirque. Et il y a un chapiteau dans ce film. Donc, il m'a semblé qu'il y avait quand même un appel au cinéma avec certaines inscriptions qui sont quand même en arrière-plan très marquées. Enfin, cinématographiquement, c'est pas n'importe qui. Bellatar et Michael Haneke. Donc, j'ai trouvé le film exaspérant d'égotisme dans son procédé.
Alors, pour dire... c'est simplement les choses concernant Sunset. Moi, je trouvais que ça commence mal, vraiment, puisque d'abord, ce qu'on entend, c'est La jeune fille et la mort de Schubert, musique qui devrait être interdite au cinéma. Enfin, il faudrait faire un moratoire quand même, quelque temps, l'interdire, comme Arvo Pärt, parce que la musique est tellement sublime qu'elle apporte sa grâce à l'image, quelle que soit l'image. Bon. Mais au vu du scénario, c'est quand même encore plus paresseux d'avoir choisi La jeune fille et la mort, puisqu'il s'agit d'une jeune fille et de la mort. Ensuite, scénaristiquement, c'est quand même à l'encan, parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette structure répétitive qui m'a fait penser qu'en fait, j'étais le spectateur d'un jeu vidéo, mais dont je n'avais pas la manette, ce qui était un peu embêtant, puisque on a ce personnage qu'on va suivre de dos. Hein. Bon, ça, c'est une vieille habitude maintenant dans le cinéma, et pourquoi pas, ça peut faire des choses formidables. Là. Donc, elle arrive à un endroit, elle me dit « Non, tu n'es pas la bienvenue ici, il faut t'en aller ». Alors, elle reste, je lui dis « Bon, bah, alors maintenant, tu restes, mais tu bouges pas ». Donc, elle sort, et ainsi de suite, et ce procédé... vraiment systématique dans le film, et comme un jeu vidéo, et avec des épreuves, avec des boss, on appelle ça dans le jeu vidéo. Donc il y a des moments comme ça plus intenses où il faut passer une épreuve, ce qu'elle fait à chaque fois. Donc j'ai quand même trouvé ce dispositif un peu étonnant. Bon, effectivement, le fait qu'elle s'appelle Iris, c'est quand même une autre lourdeur très 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 grande du film. Au fond, pour moi, ce qui faisait comme vous le disiez tout à l'heure, Corinne Rondeau, ce qui faisait la force du Fils de Sable, c'était la parfaite adéquation entre un fond et une forme, sauf qu'ici, avec la répétition de la forme et un fond qui est quand même assez, on va dire, pauvre, pour ne pas être trop méchant, du coup, il reste que la forme. Et il y a une forme, pour le coup, de vanité, de plaisir, de mise en scène qui a l'air assez contente d'elle-même, mais je ne sens aucunement ni de nécessité, ni de raison d'être. Et le dernier plan, que je ne dévoilerai pas, enfin, dont je ne dévoilerai pas la teneur, manifeste absolument cela, finir sur un plan qui est vraiment le plan où la Sonnemesse se fait plaisir, montre comme il est fort, comme il a des moyens pour faire ce qu'il veut et pour nous saisir. Je trouve que ça fait un effet absolument inverse, que le film, je l'ai rejeté encore plus après ce long dernier plan. Bon, vous avez eu beaucoup de critiques, Antoine Guillaume, vous êtes ce soir l'avocat de Sunset. Quelques réponses sans doute, Antoine.
Alors, je n'ai pas eu de critiques parce que je ne suis pas l'auteur de Sunset. Que la modestie n'étouffe pas la Sonnemesse, ça je vous le confirme.
On le sentait un peu.
Mais moi, il me semble qu'il y a beaucoup de fausses pistes dans ce film, y compris dans la manière dont on peut l'interpréter. C'est-à-dire ce dernier plan que, là encore, qu'on ne peut pas trop citer, qu'on dira qu'il est très kubrickien d'une certaine façon, à mon avis, on peut le voir autrement que ce que vous proposez. Moi, je l'ai trouvé superfétatoire pour deux raisons, mais sans doute pas pour la même raison pour une raison de genre, je dirais. Moi, ce qui me passionne dans le film, et j'aurais regretté qu'il soit un film qui ne s'applique qu'à expliquer comment cette société s'est écroulée, comment est-ce qu'on est arrivé à la guerre, à l'horreur de 14, et à tout le siècle qui soit derrière. C'est le projet apparent du film. En tout cas, c'est comme ça que
sinon, il n'y aurait pas cette scène.
C'est comme ça que l'a lu Corinne Rondeau.
C'est pas ça qu'on voit pendant en 2h15 avant ce dernier plan.
Moi, cette formule de la répétition et du cercle même, moi, me passionne justement, au contraire, parce qu'on y revient sans cesse, comme on ressasse un cauchemar qui est un cauchemar qu'on aurait toutes les nuits et qu'il s'opacifie de plus en plus. Et
il prend une
ampleur, parce que lui, il cite beaucoup Kafka, Dostoïevski, Joseph Roth, etc. Moi, j'ai eu le sentiment d'être dans les romans de Marcel Schwob, c'est-à-dire ces moments où tout d'un coup la nuit est habitée par des créatures nocturnes et furieuses qui certainement, effectivement, viennent de Bélatar, mais parce que Bélatar est une figure imposante dans le cinéma hongrois, et en plus, il a été son assistant sur un de ses films. Le principe du plan séquence, il fait penser également. Mais moi, plus le film devient furieux et incompréhensible, et à se demander, mais alors qui, etc. Moi, je me suis posé des tas de questions pendant le film sur ce frère existe-t-il ou pas, à quel point, comme il est dit dans le film, elle projette sa propre noirceur sur le monde. Est-ce que ce n'est pas le portrait complet d'une schizophrène totale qui a rendu le monde tout autour d'elle complètement schizophrène? C'est-à-dire que c'est la dimension fantastique et onirique du film qui m'a passionné de plus en plus. Et c'est là que moi, j'ai trouvé mon compte, au-delà de la démonstration de force que le film est parfois, mais dans lequel je me suis retrouvé embarqué en perdant pied. Et donc, j'ai pris énormément de plaisir.
Alors, juste pour préciser, avant de donner la parole à nos camarades, j'ai trouvé ni furieux, ni mystérieux. Le mystère pour le mystère, moi, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, Lily Bloom, ça me fatigue et ça me sort absolument, surtout que la résolution, les résolutions sont quand même tellement faibles aussi que j'avais raison d'en sortir, de mon point de vue. Lily Bloom.
Alors oui, effectivement, c'est un petit peu comme un jeu vidéo, on aurait mal choisi son personnage au départ, mais tout de même, moi, c'est le mystère de cette actrice et de cette femme m'intéresse, et le fait qu'elle se perde dans des circonvolutions, et même la relation d'ogresse au monde, dans le sens mythologique, où ça serait ses émotions qui déclencheraient des catastrophes, et aussi, toutes ces interrogations, ces mystères, moi, m'intéressent, et cette façon qu'elle a en permanence d'errer dans la ville, dans les espaces-temps, de se perdre et de nous faire sentir, non pas la ville, mais une époque. Moi, c'est vraiment la partie qui m'a le plus intéressée. Ce qui m'a profondément ennuyée, c'est le deuxième arc d'histoire qui arrive au sujet de la chapellerie et qui, d'un seul coup, banalise le film. Donc, la deuxième histoire sur le patron qui serait à la tête d'un trafic.
Stop.
Mais voilà. Ça, pour moi, ça alourdit bêtement le propos et ça l'a annulé.
Corinne Rondeau, encore un mot sur Sunset de Laszlo Nemes.
Bon, écoutez, moi, je veux même pas sauver, parce que je pense que quand on a fait quelque chose comme le fils de Saul, on peut pas sauver quelqu'un qui sait très bien chorégraphier son plan. Donc oui, c'est très bien chorégraphié, mais au-delà de ça, je trouve que la ligne du récit s'affaiblit au fur et à mesure. Je trouve que cette femme qui commence avec ses essayages de chapeau absolument admirables, mais en deux temps, trois mouvements, parce que c'est celle qui, comme Saul, maintient une pugnacité à suivre la ligne. C'est-à-dire, c'est une résistante, elle dit, finalement, je reste. Je reste parce que je veux savoir. Évidemment, quand on vise la vérité, ça va mal. Et quand les artistes visent la vérité, vous savez, il y a une phrase de Nietzsche, l'art, c'est ce qui nous empêche de mourir de la vérité. Donc il faut que les réalisateurs s'interrogent effectivement sur une notion contemporaine, et je crois que c'est quand même très récurrent dans le cinéma contemporain, c'est la question de l'aveuglement. Mais c'est quand même des maîtres de donner des visions. Donc quand Bélatar et les harmonies Werckmeister parlent finalement de la manipulation et de l'idéologie d'un pouvoir sur un peuple, il finit sur la folie. Alors là, quand on est dans schizophrénie, peut-être ou pas, c'est juste... Oui, alors, on a une sorte de couche romantique sur une vraie question, parce qu'à la fin, pardonnez-moi Antoine, on n'est pas du tout perdu, parce que 2h20, pour entendre dire « Non, tu n'as rien vu. Oui, j'ai vu. Ah mais non, tu ne sais pas ce que tu as vu. » Enfin, on a envie de se dire...
Et en plus,
il y a René, Hiroshima, mon amour, on a envie de dire « Mais au secours, donnez-moi une corde. » Donc, je trouve que ce film tente de vouloir nous donner une raison liée à la folie du monde qui fait rentrer le monde dans 14-18 pour nous parler du monde aujourd'hui qui ne sait pas dans quoi il rentre, sinon pour nous dire « Faites gaffe, c'est la guerre enfin, !» S'il faut attendre Laszlo Nemes pour ça, il y a un tas d'intellectuels qui n'ont rien à dire pour le dire. Donc arrêtons et que l'art nous fasse inventer, je dirais, des visions où on soit stimulé, qu'on se dise « Bon, il y a des gens qui nous donnent des alternatives. Là, c'est ridicule !»
Bon, ridicule, ce sera le mot de la fin concernant Sunset de Laszlo Nemes, mais c'est pas tout ce qu'on retiendra. Des points de vue échangés autour de ce film. On va parler ensuite de Ma vie avec John F. Donovan, de M, de Signe particulier néant et de Travail au noir.
France Culture, la dispute, Arne Laporte. Get the right.
La suite de cette dispute cinéma en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, le vendredi soir toujours. On va parler à présent de Ma vie avec John F. Donovan, de Xavier Dolan. Le synopsis est le suivant. 10 ans après la mort d'une vedette de télévision américaine, un jeune acteur se souvient de la correspondance qu'il a entretenue avec lui et en quoi cette correspondance a influencé le cours de leur vie.
We know how things started. He answered one of your fan letters. And then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan?
I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being a new guy.
Rupert! Sorry.
My mum and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John.
We'll get photo approval, right, Bob?
Yeah, and you're getting a pony for Christmas.
He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love.
I'm the luckiest guy in the world.
That's the time around which some people started to wonder, was it all a lie?
I wrote a letter to John F. Donovan about 5 years ago. It was rather foolish of me to think he would answer, but he did. Now I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together.
Rupert, you made up that story.
I didn't!
You lied, and you lied for years.
I just didn't say anything!
Did you or did you not write letters to that kid?
Do you have a pen pal?
Child pen pal. Do your job.
Next.
You are never to write to that man again. Do you understand?
So why release the letters now?
It's been 12 years, and frankly, have things really changed? This is about us, as a society, what we want, what we seek. I mean, what should an artist reveal of himself? And why does it matter to us?
Ma vie avec John F. Donovan et cette bande-annonce tout en douceur. Vos premiers mots sur ce film de Xavier Dolan, Lily Bloom.
Pour moi, c'est un grand burn-out cinématographique qui, je l'espère, et je le pressens avec les échos que j'ai du film qu'il a tourné ensuite, qui sera salvateur.
Corinne Rondeau.
Pathétique de mégalomanie.
Et enfin, Antoine Guillot.
Alors, avant, on avait le Dolan exténuant, maintenant, on a le Dolan exténué.
D'accord. Bon, on va développer ses points de vue. Je n'ai pas vu ce film.
Ah.
Je tiens à vous le dire tout de suite.
Heureux homme.
J'ai hésité, hein, mais bon, c'est trop de travail cette semaine, trop de livres à lire. Bon, bref. Donc, je n'ai pas encore vu, et vous allez me dire ce que je dois faire ce week-end, y aller ou pas. J'ai un peu une idée là, avec ce que vous venez de nous dire, mais bon, Lily Bloom, qu'est-ce que c'est que ce film ? J'ai résumé le point de départ, celui que j'ai lu, cette histoire. Alors, j'ai lu que ça commençait par la fin, forcément, la mort de ce Donovan. Et le film va être raconté par flashback ? Comment ça fonctionne ?
Oui, par flashback. Alors, c'est un film qu'on pourrait qualifier de film somme, mais de tous les défauts.
Somme au sens de sommeil ou de...
Aussi.
Vous avez dormi
pendant
le film ?
Non, je ne veux pas, parce qu'il y a quand même de grands moments dans le film.
Il y a de la musique trop fort.
Mais c'est un film somme vraiment de tous les défauts finalement. Donc effectivement, ça reprend la structure narrative de Lawrence Anyways, donc une structure en flashback. Ça commence un peu comme Titanic, une interview donc d'un jeune garçon qui a été un très grand fan quand il était jeune. Et puis le film va suivre des flashbacks sur la vie de cet acteur de série un peu pourri, mais dont il a été fan, et de la relation épistolaire qu'ils ont entretenue. Alors, je disais que c'est un film somme de tous ses défauts, parce que, alors, je comprends ce qui lui a plu dans ce projet. On lui offrait ses stars sur un plateau, un budget pharaonique par rapport au budget qu'il avait avant. Il y avait cette envie de faire un grand film néoclassique avec un souffle romanesque hollywoodien. Mais finalement, c'est un film qui est très recroquevillé sur ses... ses obsessions sur effectivement sur le narcissisme, répète les motifs. Alors il y a pas une mère dysfonctionnelle de la niagne, il y en a deux. On reprend le motif de la musique ringarde, mais qui déclenche un moment d'émotion, mais ça tombe mal. C'est très malaisant comme film parce qu'il y a une gravité qui devient stupide appliquée à tous les moments. Moi, ce qui me dérangeait, on était vraiment dans une sorte de trilogie doloriste, inquiétante depuis Mommy, et là c'est vraiment on touche le fond avec ce film là et je le dis avec tout l'amour que j'ai aussi pour Dolan, c'est trop grave. C'est pour moi, par exemple, ce qui est symptomatique, c'est toute la grande séquence qui est pratiquement comme une troisième partie du film, qui est l'interview, où d'un seul coup le quatrième mur entre guillemets serait cassé et il explique à une journaliste qui n'est pas acquise à sa cause en quoi ce qu'il fait est intéressant, donc ce jeune acteur, et pourquoi il a raison et que finalement ça parle au monde. Et voilà, c'est pour moi tout le mal, tout un symptôme de tout le mal qui ronge le film. C'est une volonté de surligner, de surexpliquer, de sans cesse nous empêcher de respirer. Il n'y a pas de respiration narrative, pas de confiance aussi dans le spectateur, dans sa capacité d'imagination, de rêverie, d'émotion. On est sans cesse comme pris en étau et ramené vers l'écran et on étouffe.
Corinne Rondeau.
Alors, vous savez, l'amour que j'ai pour le cinéma de Xavier Dolan.
Ben vous l'avez clamé quelques fois ici.
Oui, assez fréquemment, en opposition à Antoine, d'ailleurs.
Antoine, on le gâte parce qu'il a eu Ozon il y a quelques semaines, il a Dolan, ces deux grandes têtes de Turc.
Vous êtes gentil d'avoir attendu la semaine d'après pour le mettre, pour être sûr que je puisse le voir.
Pour être sûr que vous soyez là, bien sûr.
Mais non, je dois dire que non. C'est-à-dire que ce jeune réalisateur qui avait su faire de son hystérie quelque chose, où il y avait... quelque chose d'extrêmement dynamique, de l'allant, quelque chose qui ouvrait. Je veux dire, Mommy, par exemple, est typique par rapport à ma vie avec
John.
Oui. avec John, ouais. Avec non, John. C'est trop long pour moi. La fin de Mommy, c'était Céline Dion, que je déteste,
Personnellement, sa musique.
Oui, sa musique, bien sûr.
Je crois que vous l'aimez bien comme personne, en fait.
Oui, mais on déjeune assez fréquemment quand je viens à Paris, bien sûr.
Non, mais je préfère préciser quand même.
Oui, vous dites que je suis maquillée aussi. Donc, il y avait quelque chose d'une ouverture sur cette fin. C'était comment filmer l'hystérie, ce personnage qui était insupportable, il aimantait l'écran, de mon point de vue. Ici, on commence avec des gros plans de personnages de cet enfant. C'est le premier, c'est avant qu'il y ait le générique, on a la scène, la mère, l'enfant, gros plan comme ça, j'ai envie de vous parler. D'ailleurs, tous les films, les trois films dont on parle ce soir, ils ont un rapport vraiment frontal au spectateur, c'est très étonnant. Et donc, c'est assez pénible, si vous voulez, de voir que cet enfant-là, plus jeune que celui de Mommy, va être dans la suture. Tout ce qui est de 2h21, non, c'est 2h et quelques, le film, il est dans la suture. Ça veut dire que, par exemple, il y a un enfant qui va crier « Maman, maman, elle n'est pas là, maman ». Ben là, dans ce film, vous avez maman qui va courir vers son enfant et son enfant qui court vers elle. Avec, sur une musique, avec des couleurs maniéristes à outrance. Et là, on se dit, notre cher Xavier Dolan a repris toute sa filmographie qu'il a condensée à l'intérieur d'un film de 2h pour nous raconter une mise en abîme du cinéma, dans l'admiration du cinéma, qui est aussi son admiration pour un certain type de cinéma et un certain type de musique. D'ailleurs, on voit à quel point il utilise extrêmement mal, cette fois-ci, la musique. Musique classique, musique d'ascenseur. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ce film est d'une mégalomanie, mais gigantesque.
C'est-à-dire, elle passe par quoi, la mégalomanie?
La mégalomanie, elle vient parce que c'est un autoportrait de Dolan.
D'accord.
C'est-à-dire quelqu'un qui a été...
Un biopic.
Pardon ?
Un autobiopic.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de montrer à quel point il a aimé quelque chose du passé. Cet acteur représente la série télévisée, il représente quelque chose du visuel. Cet enfant qui est admiratif. Et cette projection dans un autre temps, c'est quand même Dolan dans une époque qui n'est pas la sienne, à laquelle il n'est pas né. Et donc, il nous fait une histoire d'admiration d'un personnage qui... Sur l'affiche, vous regarderez à quel point il ressemble à Dolan.
Vous vouliez ajouter quelque chose avant que Antoine Guillaume prenne la parole?
Non, non, c'était quand même pour parler, parce que ça, donc je disais, c'était la fin du cycle de la douleur, mais aussi dans la création, c'est la première fois que, par exemple, le montage a été difficile. Il y a quand même, on n'a pas vu le même film que la première présentation à Toronto, donc qui avait eu un accueil d'ailleurs assez glacial. Donc voilà, il y a deux heures auxquelles on n'a pas eu accès. Mm-hmm. Donc on sent aussi ça dans le film, cette difficulté du montage, de la fabrication du film, avec des trous, des manquements, des résidus de ce que le film...
Des trop pleins plutôt que des trous, non, d'après ce que vous venez de dire tout à l'heure.
Non, mais des résidus de ce que le film aurait dû être, a été pendant un temps, et puis voilà, donc ça donne un résultat un peu pagaille, quoi.
Si Antoine Guillaume prenait la défense de Xavier Dolan, tout d'un coup.
C'est un peu compliqué. Si les gens qui aiment Xavier Dolan n'aiment pas ce film, comment je vais faire moi ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement... Ce film, j'ai eu l'impression ça a toujours été son objectif. C'est toujours l'impression que j'ai eue avec ces films où il en faisait des tonnes. Il montrait, regardez le petit génie que je suis, visant comme la plupart des réalisateurs québécois, Hollywood, qui est au bout du compte l'endroit où il va enfin avoir le moyen de déployer sa vision et puis ou de dire, maintenant que j'ai fait mes gammes, je m'insère dans le système. Et il s'est retrouvé très manifestement, très mal à l'aise, une fois qu'il a accompli son rêve, avec, symbolisé par ces plans récurrents de caméras volantes qui foncent sur New York, quoi, qui va vraiment s'emparer de la ville. Et puis, une fois là, il est complètement démuni. Donc, je ne sais pas comment s'est passé le tournage, manifestement, c'était pas très simple, mais c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a un manque de désir, comme s'il avait son objectif. Donc, il se raccroche à sa grammaire habituelle et à ses petits fétiches. Il va faire effectivement, mais comme ses films précédents l'étaient aussi, des autoportraits, alors là qu'il est fracté en trois personnages principaux, mais où on retrouve tout dedans. Et puis, même ces moments, alors les moments de grande musique, avec cette scène sidérante sous la pluie, sur une reprise de Stand By Me par Florence and the Machine, qui est censé être le moment vraiment kitsch absolu, une mère court vers son fils, ils vont se retrouver sous la pluie, c'est merveilleux, etc.
Moi, je l'ai
trouvé complètement atone, cette scène, comme sont plusieurs moments du film, à cette utilisation donc permanente du très gros plan de visage en chant contre chant qu'il avait fait ad nauseam dans Juste la fin du monde, il va le reprendre. Tous ces procédés qu'on a déjà décryptés depuis longtemps sont là, mais sans aucune envie. C'est très étonnant, l'absence de désir même dans la manière de filmer, filmer les personnages ne donne qu'un ennui profond. Et alors c'est très curieux, on se dit à quoi bon ce film. Alors peut-être que s'il avait pas coupé les deux heures parce que normalement ça devait faire quatre heures au départ.
Ah ouais.
Si peut-être que c'est les deux heures qu'il a coupées qui sont les plus intéressantes, c'est-à-dire celle avec Jessica Chastain, qui certainement amènerait quelque chose, parce que bon, Kit Harington, il est très gentil, il est très joli, mais il dégage absolument rien, ou en tout cas dans la manière que Dolan a le filmé, il n'a aucun charisme, c'est juste une forme morte, comme sont la plupart des formes de ce film, y compris le procédé le plus vraiment grossier qui est, ah oui, vous qui m'aimez pas, je vais mettre une intervieweuse qui au début est très réticente, avec une scène grotesque où elle dit du mal de lui au téléphone, il est juste derrière, enfin, comment est-ce qu'on peut encore imaginer ce genre de scène maintenant, et qui va être évidemment conquise, et à la fin qui en demandera de cette histoire.
C'est un peu vous, je crois.
J'aurais aimé, mais j'attends encore ce moment.
Ça va peut-être venir.
J'attends le moment où je serai à la fin frustré par le générique de fin d'un film de Dolan. C'est pas encore le cas.
Mais c'est vrai que je me souviens d'avoir lu donc il y a quelques temps, parce que c'est une longue production, cette histoire que Jessica Chastain avait donc tournée dans ce film et qu'elle avait été coupée au montage. Alors je me suis dit, mais alors. Est-ce que c'est pas ça le comble de la mégalomanie pour Dolan ? Parce que quand on a Jessica Chastain devant sa caméra, mais on a envie de garder tous les plans quand même. Corinne Rondeau.
Je pense que c'était vraiment une nécessité,
Corinne Rondeau. Mais Lily Bloom après.
Non, mais il l'aurait coupée parce que justement, elle perturbait la relation entre le jeune admirateur
de choses, oui.
et le comédien. Et on se dit, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est un film entre un fils et sa mère, et doublé. C'est-à-dire, c'est un miroir, et c'est le miroir du temps qui se joue là. Et tout est surjoué. Suzanne Sarandon, que j'adore par-dessus tout, elle n'a pas de corps. Elle n'est rien dans ce film. Alors, Nathalie Portman, j'aime pas. Elle est exactement l'endroit où elle est. Bon, elle est maquillée, etc. Parfaite, la perruque, impeccable. Dans la lumière rouge, bleue, violet. Bon, c'est... Tout est surjoué. L'interview, on a envie de pleurer. elle va partir pour une enquête sur le monde réel. Et on se dit, mais... Et elle dit oui, quand même, elle va faire l'entretien avec quelqu'un dont elle n'a strictement rien à faire. On se dit, waouh, super l'éthique des... Mais pour dire, dans le cadre de Dolan, ouais, mais moi, je suis rien, mais en fait, j'ai quand même... Le monde est aussi... Je partage le monde comme vous. Et on a envie de pleurer. Et tout ça pour finir, pardon Arnaud, hein, mais tout ça pour finir sur la vérité. Parce que le film commence très mal avec une citation de David H. Thoreau. Mieux que l'amour, l'argent, la gloire, donnez-moi la vérité. Et là, on a envie de dire à Dolan, si la vérité, c'est tu peux mal finir parce qu'en fait, tu n'acceptes pas ton désir, d'où le burn-out, et que le désir, c'est d'être en couple avec qui je veux, mais par pitié! Par pitié! Parce que c'est ça le film.
Ah, d'accord. Hein. J'en apprends beaucoup. Lily Bloom, un dernier mot sur Ma vie avec John F. Donovan.
Non, moi ce que je regrette, c'est qu'il ne se soit pas, qu'il n'ait pas fait confiance aux pistes d'histoire qu'il amorçait finalement. La relation épistolaire aurait été passionnante. Si on suit son procédé, on a accès.
Voilà, la bande-annonce m'avait plutôt donné envie. Hein.
Oui, on a accès en fait à la vraie.
J'ai l'impression
vie.
Que c'est ça le vrai sujet.
Oui.
La correspondance a-t-elle été.
Oui, alors ça aurait pu être passionnant que cet homme, si c'est célèbre.
Au bout de 10 minutes, vous auriez été...
la bande-annonce est bien faite, hein, moi qui n'aime pas ça.
Oui, mais s'il était cohérent...
Il y a des scènes manifestement tournées uniquement pour la bande-annonce. C'est ce qu'on voit dans
non, arrêtez, soyez pas méchant.
J'ai failli me faire avoir. Allez,
c'est
quand même... pour finir.
Non, quand même, c'est pas... Parce qu'il y a quand même
vous
de
avez
de
aimé
beaux
vos Florence and the Machine, Stand By Me.
Oui, moi j'ai adoré, parce que c'est un moment très kitsch, mais qui m'a ému et qui m'a fait rire, et où j'ai senti un petit peu de son âme...
C'est votre fibre maternelle.
Qui m'a fait marrer. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi les scènes un peu de perdition en boîte de nuit aussi, où j'ai senti...
Je suis désolée, je le défends quand même.
Mais non. Bref, non, mais c'est juste que pour moi, il a raté.
Non, enfin, il faut sortir un peu, Lily, je vous en prie.
Mais je sors et j'ai quand même aimé ce qui s'amorçait là. Et non, ce que je regrettais, c'est qu'effectivement, toute la dimension qui aurait pu être très dérangeante, inquiétante dans cette relation épistolaire, ce mystère, il ne l'a pas du tout développé. Parce que finalement, on voit des flashbacks de ce qu'il cache grâce à soi-disant ses lettres, mais le petit garçon dit qu'il ne parlait que des press junkets, des sujets très superficiels. Et donc voilà, il y a un manquement là. Et finalement, voilà, c'est déceptif, c'est dommage.
Bon, je ne suis pas sûr de courir ce week-end dans les salles après vous avoir écouté, mais chacun fait comme il veut. Je crois que le démarrage n'est pas très bon pour Ma vie avec John F. Donovan, ce film de Xavier Dolan, mais allez voir par vous-même. Hein.
I landed in London with £1,200 in my pocket. As my men didn't know a single word of English, I would have to speak for them all.
Leave to remain in the United Kingdom on condition that the holder does not engage in employment paid or unpaid, and does not engage in any business or profession, is hereby given for 1 month. Now, do you understand that, Mr. Novak?
Novak, yes, I understand.
Member of Solidarity?
No. That was the only true answer I gave.
Alors, les plus cinéphiles ont reconnu la voix et l'accent inimitable de Jeremy Irons à l'époque où il était acteur. Ce qui remonte à un certain temps, mais en l'occurrence, c'est dans Travail au noir qu'on vient de l'entendre, Antoine Guillot.
Il est absolument génial dans ce film. Là, on l'entend arriver à l'aéroport de Londres avec son équipe de maçons polonais qui viennent retaper une maison au noir, comme l'indique le titre du
Travail
film, et qui vont se retrouver coincés à Londres parce que, entre-temps, il y a eu le coup d'État.
Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Oui.
C'était l'état d'urgence. L'état d'urgence.
Jaruzelski.
Coup d'État Jaruzelski en Pologne fin 1981. Ce qui est très dingue dans ce film, c'est que entre le jour du coup d'État et la présentation du film à Cannes, où il gagne le prix du meilleur scénario, il y a 6 mois. C'est-à-dire que Skolimowski est à Londres, il apprend le coup d'État, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça cinématographiquement. Il monte à toute allure un film avec Jeremy Irons qui va convaincre à coup de vodka, et il va raconter ça, mais avec un point de vue complètement dingue, parce que ce Novak, donc, qui est le petit patron, qui est le seul à parler anglais, va cacher la vérité à ses ouvriers pour qu'ils puissent terminer la maison en temps, en temps et en heure. Donc il devient une figuration à lui-même de l'état d'urgence et de la dictature, mais il devient aussi kleptomane. Ça devient un film qui est à la fois burlesque et tragique. extraordinairement filmé, un vrai film de peintre. On sait que Skolimowski s'est arrêté pendant longtemps d'être peintre, avec des teintes ocre comme ça qui fonctionnent. Une utilisation du plan séquence complètement démente, qui fait place aux accidents de la vie. Voilà, tout ça est génial. D'où ça vient, d'où il vient Skolimowski, si vous voulez savoir, parce que c'est le cinéaste le plus inclassable du monde. Il a une carrière extrêmement erratique, il vient de partout. Et bien, 20 ans avant, il y a son premier film qui s'appelle Signe particulier, Néant, qui est un film qu'il a tourné, alors là, pas pendant 6 mois, il a tourné pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il était très précoce, c'était un poète, il avait déjà travaillé avec Vaïda, avec Polanski, et il se dit, comment faire un film? Bah tiens, je vais aller à l'école de Lodz, et pendant 2 ans, au lieu de faire des courts-métrages, je vais faire un long. Donc, chaque fois qu'il a accès à un petit bout de pellicule, il va tourner un élément de ce film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est joué par lui-même avec sa dégaine de boxeur, qui ne sait pas s'il va partir au service militaire ou pas, qui est en rupture de ses études d'ichtyologie. Pourquoi des poissons? C'est une très excellente idée. Et qui va errer comme ça dans la ville. Alors, il y a des très courtes séquences parce que parfois, il a juste de quoi tourner une minute de film. Et puis, parfois, il peut faire un chargeur entier. Et donc, là, il va vous montrer Skolimowski courant, attrapant un tramway au vol, etc., faisant des travelling dans la ville. C'est un film qui est un peu de briques et de broc à cause de ses conditions de fabrication, mais qui montre déjà le Skolimowski génial qui va nous faire tant de chefs-d'œuvre, dont ce travail au noir qui est ressorti donc mercredi dernier avec Signe particulier néant qu'on n'avait jamais vu en salle.
C'est très curieux. Hein,
et puis le 10 avril, on verra Walkover que lui on a pu voir, et le Bateau phare aussi, qui est un film qu'on n'avait plus revu depuis sa sortie, qui est tout aussi génial. Donc dès que vous avez la possibilité de voir du Skolimowski, il y a une rétrospective en ce moment à la Cinémathèque, mais vous pouvez les voir en salle aussi, et ça sera bientôt tout en France. Ne ratez pas ça.
Ah oui, très envie de revoir Travail au noir. Découvrir évidemment ce signe particulier néant qui était inédit dans notre contrée.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Le dernier film à notre affiche ce soir, c'est M de Yolande Zoberman. M, c'est Menahem, 35 ans, ex-enfant prodige à la Voix d'Or, qui revient dans son quartier natal. C'est dans la banlieue de Tel Aviv. C'est un quartier qui est comme la capitale mondiale des juifs ultra-orthodoxes. Il n'y est pas revenu depuis 15 ans. C'est là qu'il a été violé dès l'âge de 7 ans par son bar rabbin, par d'autres hommes en charge de son éducation religieuse. Menahem revient. Et Yolande Zoberman, le film.
כמה אתה היום?
23.
וכמה אתה?
35.
אני שילמתי מחיר ליופי כשהייתי קטן. לי תמיד יהיה קלו בדבר הזה.
יגע יחן דבלט ומאובס דוחאי שודן. אספון מנחם.
נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי.
אינדו, מתמיה, הנה עוד גיבולט, צחי גיפין, די פלצף, די פברך.
לא בלי, די מנה.
לא די מנה?
לא.
אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים.
גם אני.
אז אני רק רוצה להשלים וזהו.
אינג'ט קינדר, לשיינן הזוי ועוד טוב מפש, גיינן טרפונס.
M de Yolande Zoberman, d'abord en quelques mots, Corinne Rondeau.
Alors le plus soft.
Moi je vais citer un moment du film, les portes d'un monde mystérieux et interdit se sont ouvertes devant moi.
Lily Blum.
Moi je dirais petit moyen grand film, contrairement aux deux films précédents.
Bon, il y aura dispute, à mon avis. Corinne Rondeau.
Alors, je commence. Écoutez, on a un film, le premier plan, c'est quand même quelqu'un qui nous parle près de la caméra et qui nous parle.
Vous parlez de Sunset?
Non. Je vous parle aussi de Gyola. Voilà. Et puis, je vous parle aussi de celui-là. Donc, moi, je n'ai rien compris au départ. C'est-à-dire qu'on est un peu bouleversé par cette espèce d'expression dans un quart d'un corps nu sur une plage de nuit à Tel Aviv. Et puis ensuite, une scène avec ce même personnage, avec un transsexuel à Tel Aviv. On se dit, bon, ouais, ok. On parle de sexualité. Yolanda Zoberman
Yolande.
Yolande, ben oui, bien sûr, parce que je la connais comme Céline Dion, a filmé la sexualité, enfin, l'a fait. Bon, on se dit, bon, où est-ce qu'on va ? Bon, c'est une manière peut-être d'inscrire le documentaire à l'intérieur d'un pays, Israël, qui n'est pas que Jérusalem, qui n'est pas qu'une religion, qui n'est pas qu'un état guerrier, c'est aussi Tel Aviv, le lieu de la fête, la ville de la fête, où tout est possible, comme partout ailleurs, quand c'est possible, évidemment. Et puis ensuite, donc Menahem, c'est le garçon qui a eu une histoire dans cette ville ultra-orthodoxe à Nebrak, et où on découvre effectivement que c'est une ville sodomite, littéralement. C'est-à-dire que pendant le yeshiva, l'éducation au Talmud, etc., il y a effectivement ce qu'on a aujourd'hui en France, mais où il y a un procès. Il y a des procès dans cette ville qui est ultra-orthodoxe, où Menahem revient pour justement revivre et trouver la vérité et des réponses à ce viol enfant. Alors évidemment, Yolanda Zoberman, où elle est avec sa camarade et on lui ouvre les portes, c'est très étonnant. Mais moi, si vous voulez, ce film m'a laissé un peu pantoise dans la mesure où je trouve que le M prend tout l'écran, que dans tout cet écran qu'il vampirise, la documentariste, la réalisatrice prend vraiment ce qui lui est donné et cette espèce de cette charge affective, presque hystérique de ce personnage qui nous fait rentrer dans des lieux de culte avec sa famille qui retrouve 15 ans après les faits pour découvrir qu'il n'a pas été violé à 7 ans mais à 4 ans par des gens qui l'ont éduqué à la religion, dans une ville qui n'a pas de police, qui n'a pas de justice, puisque c'est le rabbin qui finalement gère absolument toutes les situations entre la famille et la rue. Hein, je veux dire, c'est le rabbin qui gère tout. Et donc, moi, ce film, si vous voulez, j'ai eu l'impression que j'étais sur un dance floor où on avait en permanence des témoignages liés justement à cette question de viol qui est assez récurrente, qui est permanente. Et on se dit, en fait, à quoi sert ce film, sinon pour dire qu'effectivement, dans toute société close, il se passe des choses pas très claires, quoi. Je veux dire, on en a dans les sociétés fermées du catholicisme, il ne doit rien avoir dans les sociétés islamiques très fermées. La clôture d'une culture, finalement, c'est jamais très heureux. Mais moi, Et je dois dire même que ce film, à certains moments, j'ai trouvé qu'il était faux.
Vous développerez tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps. Antoine Guillot, sur M de Yolande Zoberman.
À quoi sert ce film ? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, il me semble qu'il se pose la question et il trouve des réponses qui sont plus surprenantes à comment sortir, justement, de cet état de fait que vous décrivez, cette société close qui produit...
Parce que Menahem a découvert qu'il n'est vraiment pas seul à avoir vécu ça.
Qui produit ça. Et ça, c'est une des choses passionnantes, justement. Mais je vais y arriver. Je trouve que la grandeur du film, c'est de se poser toutes les questions que François Ozon a soigneusement évité de se poser.
Pas du tout.
Ben, si, précisément.
Pas du tout.
Précisément. Et d'ailleurs, je me suis posé la même question que vous au début. Où est-ce qu'on va ? Parce que, en disant, voilà, état de fait, cet homme a été violé, il retourne là-bas pour confronter ses violeurs. Donc on se dit, d'accord, on va faire la description de cette société extrêmement criminogène et perverse qu'est ce milieu fermé des ultra-orthodoxes. On va taper sur les ultra-orthodoxes en disant, regardez, c'est horrible ce qui s'y passe, c'est vraiment des salauds, etc. Et plus le film avance, plus ça se complexifie, plus ça devient autre chose. Et plus il fait ses rencontres très étonnantes sorties de la nuit qu'on va rencontrer sur un cimetière, sur une plage, et de gens qui vont partager. Mais c'est vrai qu'on est sidéré de voir ce que peut provoquer la caméra. Je ne sais pas quel est l'art de Yolande Zoberman pour provoquer ça, mais de gens qui vont se confier non seulement de ce qu'ils ont subi, mais de ce qu'ils ont fait subir, et ce sont souvent les mêmes. Et c'est pour ça que le film s'appelle M, pas seulement comme NRM, mais évidemment en référence au personnage de Fritz Lang. Moi, quand j'avais parlé du film de François Ozon, je regrettais qu'on ne s'intéresse pas aux personnages les plus potentiellement intéressants, qui étaient le curé et Barbarin. C'est-à-dire comment tout cela se perpétue, pourquoi il y a ça. Et en montrant que il y a ce qu'ils appellent, ils ont un nom en yiddish pour parler de ce cercle infernal qui fait que, étant violé enfant dans un monde où le corps de la femme est quelque chose qu'on ne peut jamais voir, il y a cette scène incroyable de ce jeune homme qui se demande mais qu'est-ce que peuvent faire deux femmes entre elles, elles n'ont pas de sexe, donc c'est-à-dire la connaissance qu'ils vont avoir toute leur vie de ça. On sait effectivement cette promiscuité dans les yeshivas, dans les bains de purification entre les jeunes garçons et les hommes ne peut provoquer que ça et se répéter. Là où ça devient passionnant, c'est que à force de pénétrer dans cette communauté, sa façon de les regarder, oui, je dis bien ce que je dis, elle nous amène à un niveau de complexité et d'une autre façon même de les voir. On se dit, au début, on les regarde en disant « Ah oui, c'est probablement tous des violeurs et les gamins sont probablement tous des victimes. » Et tout d'un coup, on se dit qu'elle fait que les portraits de gens qui sont les mêmes et qui essayent de sortir de ça. Et le film ouvre des pistes vers ça. Et moi, sincèrement, j'ai été bouleversé par ce film.
Lily Bloom, pendant que Corinne Rondeau boue.
Oui, je suis scandalisée par ce qu'a dit Carrie.
Corinne.
Corinne, pardon.
Oui, allez-y, fouettez-moi.
Non, alors, tout d'abord, effectivement, cette première scène où il y a ce jeune homme très extraverti, très nu, qui parle.
Très voilà, nu.
Non, mais c'est vrai, il est
nu. Particulier,
sur
très
cette
nu.
Plage, la nuit, effectivement, moi aussi, m'a un petit peu dérangé la frontalité de son discours, le chant, tout. Et puis, d'un seul coup, ce qui m'est apparu, c'est que c'est aussi la beauté du film. Ils n'avaient pas envie de tourner quand ils ont tourné cette scène-là. Et du coup, il y a jeté son histoire à la caméra, on va dire. Et ce qui est très beau après et qui se déploie dans le film, c'est leur relation. Elle est partie comme ensorcelée par la langue yiddish, avec une volonté de rentrer dans cette communauté, avec presque une joie d'y entrer. Lui, il y venait pour régler ses comptes. Ils font l'aphorisme de Kafka, je viens avec un couteau pour vous tuer, je viens avec un couteau pour vous protéger. Et ils entrent dans cette communauté. Alors, il faut quand même pas être cynique, c'est quand même une sidération d'entrer dans cette langue. Je veux dire, c'est aussi stupéfiant que d'entendre une communauté qui ne parlerait qu'en grec ancien, de comprendre ces rites. Il y a un érotisme fou. Ben non, je suis désolée. Il y a un érotisme dingue qui se dégage de tout le film, de cette déambulation nocturne qui rappelle un cauchemar shakespearien tout de même, qui a des tonalités néo-expressionnistes inquiétantes. On passe, elle dit à un moment qu'elle a fait un film de vampire, mais c'est vrai, il y a une dimension magique au film et un érotisme et qui est totalement relié à cette communauté parce que cette ferveur religieuse, les chants, la fureur religieuse finalement devient aussi sexuelle et pour eux c'est une rédemption la sexualité moi ça m'a, il y a des choses qui
j'ai l'impression que vous avez vu trois films différents,
mais non, mais je suis désolée, c'est quand même moi ça m'a bousculé dans des convictions que je ne questionnais pas plus que ça. Effectivement, sur la question de l'Église catholique, je me disais le fait de ne pas avoir de sexualité justifierait ces actes pédophiles. Ben non, pas du tout, là c'est pas la question. Non, mais je suis désolée.
Elle
effectivement quand un violeur apparaît d'un seul coup à l'écran, qu'il apparaît, qu'en fait on s'aperçoit que c'est un enfant blessé et que d'un seul coup on entend sa parole, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je suis désolée. Et en plus c'est un film qui va vers la lumière, vers la résilience, c'est un film très beau.
Alors, il reste 2 minutes à partager en 3. Alors, on a eu le tour de chauffe au début, maintenant c'est encore une forme de conclusion.
Pardon, alors, des gens qui sont des victimes, on en voit partout, pardon Lily Bloom. La deuxième chose, c'est que le film est construit sur le cycle de l'auto-reproduction de cette communauté, abusé, abuseur. Oui. Donc, il faut se calmer sur le romantisme de la situation acidique. La deuxième chose, c'est que, pour reprendre une formule de Marina Foïs dans un film récemment, écoutez, apparemment, non, je vais pas le dire parce que je vais avoir des insanités qui vont mettre, voilà. Mais je trouve que mais quand vous vous dites cette femme qui ouvre, on lui ouvre les portes, mais à aucun moment la question de la féminité n'est posée dans ce film, vraiment, franchement. Par contre, on entend un père, on n'entend pas une mère, donc il faut un petit peu redescendre sur la terre. Et puis je trouve que ce film, il est une manière de dire, effectivement, si je tire le positif, c'est toute structure et organisation sociale, quand elle est close, il y a des sodomites partout. Donc il faut arrêter, sauf qu'il y a des structures qui sont avec une justice et d'autres pas. Voilà, et ça pose des...
Antoine Guillaume boue à son tour, mais il a 30 secondes pour débouillir.
Non, je boue pas, mais je comprends pas votre énervement, parce que vous dites sans arrêt...
Antoine Guillaume, Antoine Guillaume a la parole.
Précisément, si vous m'écoutiez un petit peu, la question c'est justement qu'on n'arrête pas.
Je ne fais que ça.
La question c'est comment est-ce qu'on arrête, et la question c'est pas parler des victimes, c'est parler des victimes bourreaux, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, ça ne parle que des bourreaux, ça ne parle de ceux qui ne veulent pas entendre. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas entendre ? Elle offre des portes de sortie parce que se pose la question à l'intérieur même de cette communauté, y compris en abolissant la hiérarchie. La hiérarchie religieuse à l'intérieur même de la communauté qui en fait quelque chose de passionnant. Vous arrêtez, vous ne voulez pas voir, c'est très curieux quand même.
Allez voir par vous-même. M de Yolande Zoberman, je sais bien, mais ce sera pour les bonus de l'émission à voir sur le site, j'invente évidemment. M, c'est le film de Yolande Zoberman qui est sorti mercredi dernier et qui suscitait ces vifs débats dans notre émission. Calmons les esprits. Par un jeu.
Moi, ça va, moi.
Par un jeu de la dispute. Mais je sais très bien ce qui se passe à la dispute. Reste à la dispute. Joséphine Dumoulin, qui est la voix de la sagesse et du jeu également, est là pour nous rappeler la question d'hier et nous donner sa réponse d'abord.
La question était: quel metteur en scène russe engagé dans la révolution socialiste a renouvelé les techniques de jeu à partir de la biomécanique? Et la réponse était Meyerhold.
Ce soir, des invitations gagnées pour l'exposition Elena Rubinstein au Musée de l'Art et d'Histoire du Judaïsme. Quelle est la question, Joséphine?
À qui Elena Rubinstein doit-elle son surnom d'impératrice de la cosmétique?
Votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, c'est sur laquelle vous pouvez nous réécouter et nous podcaster. Lundi, spectacle vivant. Vous voulez pas revenir, Nelly Blum? Parce que c'est prévu, en fait. Vous serez là lundi avec Marie Sorbier, Thomas Corlin. On parlera de la trilogie de la vengeance, le nouveau spectacle de Simon Stone à l'Odéon, les chaises de Jeanne Ionesco mises en scène Bernard Lévy au théâtre de l'Aquarium, Veillée de famille de Gilles Gasson-Dreyfus au théâtre du Rond-Point. Et ce sera mon coup de cœur pour une fois pour Place des Héros, Thomas Bernard, mise en scène Christiane Loupa.